RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Bonjour à tous et bienvenue sur RMC, RMC Story, RMC c'est la radio, RMC Story c'est la télé. Les amis, on vous attend au 32-16 pour discuter, pour débattre. C'est donc l'heure des GG, des grandes gueules. Bonjour Olivier.
Bonjour Alain, bonjour les grandes gueules, bonjour à tous.
Aujourd'hui dans les GG, Bruno Poncet, cheminot et syndicaliste. Bonjour mon cher.
Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes avec Barbara Lefebvre, qui est professeure d'histoire-géographie. Bonjour Barbara.
Bonjour à tous.
Et puis Mehdi Guézard, patron de PME, nous accompagne aussi aujourd'hui. Bonjour Mehdi.
Bonjour à tous.
Parmi les sujets de discussion, on évoquera tout à l'heure à 10h ce qui est arrivé à Kenji Girac. Il va être entendu dans la journée, il a été opéré, visiblement son état de santé s'améliore et tant mieux. C'est l'un des chanteurs les plus populaires du pays, partout où il passe et tournée des Zéniths, c'est complet pour Kenji Girac. Alors, que lui est-il arrivé?
Il y a un mystère.
Voilà, qu'il a manipulé une arme et que le coup est parti en manipulant l'arme très tard dans la nuit ou très tôt le matin.
Il ne voulait pas faire la cérémonie d'ouverture des JO.
Vers 5h, 5h.
Il peut remplacer Aya Nakamura.
C'est pas idiot d'ailleurs. Tiens,
j'aurais bien aimé, c'était sympa.
Il a fait une berigovole.
Rien ne dit qu'il n'avait pas été appelé, puisqu'on sait aujourd'hui qu'il n'y aura pas que Aya Nakamura, il y aura d'autres artistes.
Ah, c'est vrai, j'avais pas suivi. Il devait peut-être y avoir Kenji.
On parlera du mystère autour de Kenji Girac tout à l'heure à 10h. On évoquera aussi les règles d'indemnisation du chômage, les internats. Est-ce que c'est la solution anti-délinquants, ces internats dont un visité à Nice hier par Gabriel Attal? Mais notre premier sujet de discussion va nous emmener à discuter couvre-feu.
RMC, les grandes gueules.
Christian Estrosi, le maire de Nice, a annoncé il y a quelques minutes qu'il voulait réinstaurer le couvre-feu aussi dans sa ville pour les mineurs. Robert Ménard le fait depuis hier à Béziers. Couvre-feu aussi à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe entre 20h et 5h du matin. Donc, et si on généralisait? C'est la question que l'on peut se poser.
C'est ce que dit d'ailleurs ce matin Christian Estrosi, le maire de Nice, puisque lui, il dit que son couvre-feu, ça partit à 13 ans, mais qu'il réfléchit à étendre ce couvre-feu pour les mineurs de 14 à 16 ans. D'ailleurs, c'est peut-être pour ces mineurs-là que ça pose vraiment question, parce que sincèrement, est-ce qu'à Béziers, il y a beaucoup de mineurs de moins de 13 ans le soir entre 20h et 5h du matin? Il faudrait quand même aller vérifier. En revanche, effectivement, des mineurs de 14 à 18 ans, il y en a plus, et c'est d'ailleurs, dans cette tranche d'âge où on a des problèmes de délinquance très, très, très importants en ce moment, dont couvre-feu à Nice, à Béziers, à Cagnes-sur-Mer. Depuis 20 ans, le maire de Cagnes-sur-Mer a mis en place un couvre-feu pour les moins de 13 ans. Et peut-être généralisation, est-ce que c'est la solution ?
32-16 pour en discuter avec les GG, avec les grandes gueules, midi.
Ce n'est pas la solution, c'est une des solutions qui, pour moi, me paraît bonne à mettre sur la table. Un gosse de 13 ans n'a strictement rien à faire à 23h, ou même 22h, ou même 21h dehors, tout seul. On n'est pas en train de dire que c'est un gamin de 13 ans qui se balade avec ses parents. On n'est pas en Corée du Nord. Mais on est en train de dire qu'un gamin de cet âge-là n'a strictement rien à faire, même pas en bas de son immeuble, je précise, parce qu'il y en a qui vont te dire « Mais non, mais il est avec ses copains en bas de son immeuble. » Mais à 13 ans, mon coco, tu dois être au lit chez toi, à 23h. Bien sûr. Quand j'étais jeune, jusqu'à mes 13-14 ans, quand il y avait le JT de Patrick Poivre d'Arvor, j'étais au lit.
Ah, quand même.
Ah oui, j'étais au lit. Ah oui, oui.
À 20h, pas à 20h30 alors.
Quand il y avait Claire, je me rappelle, il y avait Claire Chazal le week-end, je crois, et Patrick Poivre d'Arvor la semaine. Quand 20h, ça commençait, mon père allumait la télé pour mettre le JT, il fallait qu'on ait mangé, brosser les dents et au lit. Il n'y avait pas une mouche qui tournait dans la maison. C'était comme ça, c'était une règle.
Et c'est où que t'as mal tourné pour devenir de droite?
Je crois que Mehdi a eu une éducation normale.
Voilà. Oui, classique.
Juste normale.
Moi, c'était 20h30, moi.
Moi, 23h dehors. Mais bien sûr.
14 ans, c'est 20h30.
Bien sûr, à 20h30, 14 ans.
Après, ça ne veut pas dire que tu t'endormais à 20h30.
Oui, mais t'étais au lit, tu étais dans ta chambre, tu lisais un livre.
Aujourd'hui, ma fille, à 21h, elle doit être au lit, elle bouquine si elle veut, mais c'est 21h.
Il
n'y
avait qu'un seul soir par semaine où on avait le droit de regarder la télé, c'était le mardi soir. Parce que le lendemain, on n'avait pas.
Et on regardait. Le mardi, c'est permis. C'était mardi. Tout s'explique. Il y avait la trilogie du.
Tout s'explique. Il y avait les dossiers de l'écran.
Et regarde ce que ça fait. Ça fait des hommes construits, des femmes construites.
Moi, je regardais les gens
de droite. Ça fait des gens de droite. C'est Christoun quand même.
Mais en revanche, les cheminots, ils se couchent très tard.
Du coup, on travaille en 3-8. C'est un truc que je ne peux pas comprendre. C'est une notion que vous ne comprendrez jamais.
J'ai réagi, excusez-moi. Moi, je me souviens de mes 13-14 ans. Alors, c'était le printemps et l'été quand les journées rallongeaient. Nous, on jouait au foot en bas de la maison, dans le quartier avec les copains.
Et
on
dans avait. Le sud, à Nice.
Oui, et puis on rentrait vers 21h, 21h. C'était pas tous les soirs, mais on sortait. Quoi.
On était devant les maisons.
C'était juste, on jouait en bas du quartier. Quoi, mais...
D'accord, mais en fait, l'époque où tu jouais tranquillement au ballon est révolue en bas de la maison. Maintenant, les gamins qui sont à 13 ans en bas de la maison, c'est pas pour jouer au ballon. Et tu sais très bien. Voilà. Et malheureusement, on est dans une société où c'est des jeunes qui marchent en groupe. Tu vois ce que je veux dire? C'est un effet de meute et qui font malheureusement, pour la plupart, connerie sur connerie. Pour rien du tout, pour montrer à son copain que c'est le plus fort ou que c'est le plus...
Donc si on veut les tirer à la maison, surtout, le couvre-feu,
je pense que l'autorité parentale, je pense sincèrement que l'autorité parentale... Parce que moi, j'aime bien les gens qui me disent, non mais, c'est des quand ils font des conneries, ils te disent, mais c'est des mineurs. D'accord, mais un mineur n'a pas à être dehors. Ouais. Les parents doivent justement tenir leur mineur à la maison.
Ben, c'est... Et puis il veut de sortir, jouer au ballon, comme tu dis, le problème c'est que jouer au ballon à ton époque... On pouvait se dire, en tant que parent, bon, il est devant ou il est à côté, il n'y a pas de problème. Mais là, même si ton gosse, il est dehors à jouer au ballon avec deux, trois copains, il ne sait pas s'il ne va pas y avoir une bande qui va venir pour lui racketter son téléphone, lui racketter sa montre et lui mettre un coup de couteau. Parce que c'est ça, ton gamin, regardez le petit Zakaria à Romans-sur-Isère, il n'était pas connu des services de police, il a cherché à s'interposer pour calmer les choses et c'est lui qui s'est pris le coup de couteau mortel. Donc aujourd'hui, la problématique, c'est effectivement... Moi-même, dans la journée, pas le soir, certainement pas le soir, mais je pouvais sortir, faire du patin à roulettes, etc. Mais je ne sais pas si aujourd'hui, je laisserais ma fille aller dehors aussi loin que moi je pouvais aller à l'extérieur du quartier où j'étais.
Le couvre-feu, ça peut être utile.
Non seulement je pense que ça peut être utile, par contre, je ne suis pas d'accord avec ceux qui veulent le délimiter. Il y a l'indivisibilité de la République. J'ai vu que Marion Maréchal, par exemple, elle disait qu'il fallait l'appliquer dans les quartiers prioritaires.
Ça, c'est une connerie.
Je suis désolée.
C'est partout.
Il n'y a pas à...
C'est
d'abord,
une loi nationale que tu veux.
Je ne vais pas commencer avec le coup de stigmatiser, ce n'est pas le problème. On se doute bien où sont les problèmes quand même. Mais je ne vois pas pourquoi ce serait que les quartiers prioritaires. C'est partout en France.
Pourtant, par exemple, Christian Estrosi, c'est dans certains quartiers, pas partout.
Eh bien ça, je ne suis pas d'accord. L'indivisibilité de la République, c'est l'indivisibilité de la République. On a déjà assez à faire avec ce concordat à la noix en Alsace-Moselle, là, qu'on devrait déjà lever depuis bien longtemps.
Pourquoi tu t'en prends tout d'un coup aux Alsaces ?
Non, parce que je suis contre le fait que...
Ça, c'est une balle perdue.
Je suis contre le régime concordataire. C'est la responsabilité de l'État de ne pas faire respecter la laïcité républicaine partout sur la République. Donc, l'indivisibilité de la République...
Donc, couvre-feu partout, mais alors à quel âge, Barbara ?
Bah moi, je trouve que moins de 15 ans, c'est bien.
Non mais attends, moins de 15 ans, c'est bien. Barbara, je suis choqué par la réaction d'Alain Marchal. On dirait que tu es étonné que ça te choque qu'à 13 ans, le gamin de chez lui à 20 heures. Non, mais c'est fou. Ouais. Pour moi, à 13 ans, 14 ans, 15 ans, le gamin n'a rien à faire dehors à 23 heures. Et moi, je dirais même plus.
Sans adulte.
Moi, je dirais même plus à partir de 21h, 22h.
Parce que voilà,
le gamin n'a rien à faire dehors.
23 heures, je suis d'accord.
Mais qu'est-ce qu'un gamin à faire dehors sans ses parents à cette heure-ci? Mais je comprends.
Parce que quand tu disais 20h, 21h, c'est là où j'étais.
Mais de toute façon, la question, c'est même pas ça. C'est qu'en tant que parent, moi, je laisserais pas même mon fils revenir du foot à 22h. J'irais le chercher.
Bruno Poncet, est-ce que c'est couvre-feu, 15 ans, par exemple, par
Bruno Poncet, c'est 2h du matin avec une bière?
Non, mais moi, je me rends compte que j'ai une enfance très heureuse parce que nous, on avait le droit d'être devant la maison. Nous, on avait des amis. Moi, j'habitais beaucoup chez mes grands-parents quand j'étais gamin. Et on avait des.
À Vierzon.
Ouais, à Vierzon. Ouais. Et on avait des amis, leurs parents étaient sur le banc en train de discuter à l'ancienne, pas de télé, tu vois.
Ah oui, il y avait des adultes. Il y avait des adultes.
Oui, mais
t'es gentil, on était à côté d'autres à te faire des conneries un peu plus loin. Parce que,
d'accord, mais il y avait des adultes.
Oui, mais ils étaient assez loin quand même, ils étaient à 100, 200 mètres de nous.
Vous saviez qu'ils étaient là. Non, mais vous saviez qu'ils étaient là, c'était dans votre tête.
C'est pas des petits jeunes qui habitent dans un quartier qui vont en ville,
Moi, je comprends parce qu'aujourd'hui, évidemment, mais après, on va pas faire. Il y a des faits divers qui arrivent dans certains endroits. C'est pas la généralité de ce qui se passe en France partout.
C'est pas des faits divers. divers, c'est un fait de société.
Moi, je pense que c'est des faits divers encore. Et Alain pourrait t'en parler, mais moi, quand j'étais gamin, il n'y avait pas un bal qui se finissait sans coup de couteau. Donc à un moment donné, tu vois, la violence, c'est pas d'aujourd'hui. Hein.
Non, mais dans les années 80, t'avais des morts dans tous les balles populaires. Toi.
Bah des morts, non, mais en tout cas des mecs entaillés. D'ailleurs, moi j'ai encore des traces sur les doigts.
La différence et tous les spécialistes expliquent. Effectivement, il y a toujours eu des bagarres, sauf que c'était pas pour tuer forcément. Là, quand l'histoire de Philippe. Ils y vont, ouais, ils vont pour lui défoncer la tête pour le tuer.
Oui, mais c'est un fait divers, on est d'accord. C'est pas
bah, quand t'en as un chaque c'est semaine, ça devient divers. Un fait
divers. Oui, mais non, aujourd'hui, c'est la formation arrive à vous. Mais avant, tu te vois bien dans tous les quartiers, t'avais des trucs et ça montait pas toujours très haut. Moi, je trouve que c'est dommage. Le tout dommage, c'est qu'on laisse passer un peu les. Tu vois, un peu de. Moi, je comprends toutes ces mesures, je les entends et je me dis, bon,
c'est dommage, j'en étais arrivé.
Moi, ça me fait vraiment. Moi, je me dis, pour ces gamins, pour deux. Enfin, c'est à 14 ans, moi, je comprends, j'entends Mehdi ce qu'il dit, mais moi, à 20h, tu vois, moi, j'avais qu'un truc, c'était de bouffer. Et après, je sortais vite fait, aller voir mes potes, tu vois. Et
on était devant. Alors qu'il y avait école.
Non, quand il n'y a pas école, mais le mardi. Mercredi aussi. Et moi, je passais ma vie dehors, en fait.
Là, c'est des cas de figure complètement différents. Quand tu es en vacances, on ne parle pas des. En fait, là, ce qui se passe actuellement, c'est qu'il n'y a plus de règles. C'est ça qui où le problème
ça, c'est
est énorme.
Donc
les parents, du fait qu'ils ne prennent pas leur responsabilité, il faut pénaliser la chose un arrêté de mairie ou un arrêté préfectoral qui interdit aux mineurs avoir leurs parents en.
Oui, mais Bruno a pas tort de dire que c'est peut-être pas aux flics. Moi, j'entendais Rudy Mana, le policier qu'on entend souvent dans les médias, qui disait : je suis désolé, mais nous, on a autre chose à faire que d'aller chercher les gamins, de trouver leur adresse, de les ramener à leurs parents, parce que pendant qu'on fait ça, ça prend du temps et on a peut-être autre chose à faire. Moi, je suis assez d'accord. C'est comme à l'école où on demande de régler tous les problèmes de la société. Non, on est en train de demander maintenant à la police de régler tous les problèmes de la société. Non. Si les parents sont trop laxistes ou ne savent pas faire, c'est pas la faute de la police.
Tu les mets en petite cellule de dégrisement toute la nuit, ils vont faire dodo tous ensemble à la cellule de dégrisement. Ça va leur passer l'envie.
Dans la Ligue des droits de l'homme.
Je m'en fiche, mais ça leur passera l'envie.
J'étais à 17 ans, c'est pas
si arrivé dans une société où tout le monde se déresponsabilise. D'accord ? Ça veut dire que les parents se déresponsabilisent. Les autorités compétentes se déresponsabilisent, les policiers se déresponsabilisent.
C'est pas leur métier, les
policiers,
tout
le monde dit. Alors, il y a certains parents qui te disent, c'est pas mon métier, moi, de le suivre.
Il
y en a qui te disent, je n'arrive pas à l'un. Maintenant, tu me dis, la police ne peut pas. Alors que tu sais, moi, je te le dis, et je connais énormément de personnes de force de l'ordre qui te disent, on n'attend qu'une chose. C'est de pouvoir sévir, mais ils n'ont pas la législation pour sévir justement pour les gamins. Quand un petit gamin de 14 ans ou 15 ans qui fait des conneries, d'accord, et qui dit au policier, je m'en fous parce que moi dans 2 heures je suis dehors, ben, tu n'as pas de pouvoir de dissuasion contre ces gamins.
C'est un problème de justice.
Donc je te jure que si tu dis au policier, vous avez un pouvoir législatif pour justement réprimander ces personnes-là, je pense que les policiers seront beaucoup plus d'accord avec cette loi que le contraire. Voilà.
C'est pourquoi il peut être indiqué, dans ces cas-là, de les mettre, il est 23h, minuit, vous n'avez rien à faire dehors. On n'a pas le temps, monsieur, cher jeune homme, qui en plus nous insultait ou va savoir quoi. On n'a pas le temps d'appeler papa, maman. Vous savez quoi ? Vous allez rester là toute la nuit, vous allez faire dodo sur
le
machin en béton, là, et on leur fait une petite cellule pour eux. Évidemment, on ne va pas le mettre avec les majeurs,
etc. On les met avec Marc Dutroux, tant que les gamins se
disent un peu. T'inquiète pas que tu leur fais ça une fois, ça va vite les calmer.
On a Armand.
Et les parents aussi, ça les calme.
Armand du côté des Yvelines, qui est au 32-16. Bonjour Armand.
Salut les GG.
Alors, seriez d'accord avec une généralisation du couvre-feu, 15 ans partout en France ? Dites-moi.
Comme j'expliquais au standard, je suis malheureusement d'accord. Pourquoi malheureusement ? Parce que les parents ne font plus leur boulot, c'est tout.
C'est ça le problème.
Voilà, l'État est complice aussi d'un côté du manque d'autorité. Excusez-moi, je suis un petit peu...
Non, je vous en prie.
L'État est complice, selon moi, aussi du manque, du retrait de l'autorité des parents, voilà comment je l'appellerais. Pourquoi ? Parce que maintenant, on ne peut plus rien dire à nos gosses.
Bravo.
Parce que sinon, on est trop violent. Moi, j'ai mon fils qui est au collège.
Oui.
Dans son collège, vous savez, vous avez les petites affiches. Si ton papa, ta maman te parle mal, te frappe, il faut que tu appelles ce numéro, il faut que tu viennes parler à cette personne et tout. Mais sauf qu'il y a des gamins qui sont pas si cons que ça à notre époque. et il utilise ça. Donc ça, c'est déjà le premier problème. Et le deux, c'est que moi, selon moi, je vais être un peu rude, mais il y a des gens qui
s'en foutent de leur gosse,
qui n'ont pas la compétence pour être parents. Qui n'ont pas la compétence pour être parents. Moi, mes parents, à mon époque, donc j'ai 37 ans, quand je sortais, quand j'avais 13, 14 ans, ils exigeaient de savoir avec qui j'étais,
où
j'étais.
Voilà. Ça remontait pas mal, moi, quand même.
Quand on me disait, tu rentres à 17h30, quand je rentrais à 17h31, je prenais une cartouche, tout simplement.
Et Armand, le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, en plus, les gamins, ils ont un téléphone. C'est-à-dire que, vous pouvez mieux les tracer, vous pouvez savoir où ils sont. Et c'est-à-dire qu'avec le téléphone, on sait encore moins où ils sont et avec qui ils sont. Merveilleux.
Parce que le téléphone, c'est pareil. On n'est pas une génération. On part donc. Moi, mon enfant, par exemple, mon grand, il a 13 ans. Donc. Sur son téléphone, j'ai installé l'application, bon, c'est pas pour faire de la pub, mais vous savez, c'est Family Link.
Family Link, je l'ai aussi, c'est formidable, on peut les tracer.
Barbara, elle a tout.
Même mes chats sont connectés.
Avec une frappe de drone, si jamais.
Barbara met des colis à tout le monde.
Attendez, allez-y, Armand, pardon.
Mais oui, mais si on fait ça, on retire la liberté des enfants et on les trace.
Mais pas du tout. On sait où ils sont, c'est tout.
Et est-ce que vous l'avez utilisé?
Vous avez raison, Armand.
Barbara, je suis d'accord avec vous. Moi, par exemple, mon fils, dans son groupe de aller 10 copains, c'est le seul à avoir un contrôle parental. Alors, ouais. il le vit bien, parce que mon fils, il est très libre et tout, il n'y a pas de souci. À partir du moment où je sais où il est, il n'y a pas de souci. Mais moi, mon fils, il fait partie d'une génération où les gamins, à partir de 10 ans, avaient un téléphone portable. Et c'était la fête, quoi. C'est le téléphone portable jusqu'à minuit dans la chambre et tout. Enfin, bref, on s'éloigne du sujet. Mais voilà, c'est...
Mais vous contrôlez, vous le tracez.
Mais en plus, avec les portables, on pourrait encore mieux les surveiller. Dire les gens qui vous disent, et je m'en rappelle de la maman de Samara. Je n'ai pas de jugement vis-à-vis de cette maman, mais c'est au moment de l'attaque de sa fille qu'elle a eu enfin le code pour déverrouiller le téléphone et qu'elle a vu un certain nombre de choses dans le téléphone. Moi, je suis sidérée quand même. Je suis désolée. Le téléphone, c'est quelque chose que vous achetez à vos enfants. Vous payez les forfaits. Votre enfant n'a pas à vous dire, t'as pas le droit de regarder, je mets des codes. Non, mais ça va la vie. Alors, non, on te trace, on regarde ce qu'il y a dedans, c'est nous qu'installons les applis, et si ça nous plaît pas, on les désinstalle.
Armand qui nous appelait des Yvelines, et je le remercie. Et sur la ligne Barbara, la ligne Mehdi, il est pour le couvre-feu pour les moins de 15 ans, partout en France. À vous de venir continuer d'en parler avec les GG, avec les grandes gueules au 32-16.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules, c'est sur RMC, RMC Story, les GG avec aujourd'hui Mehdi Guézard, patron de PME, Bruno Poncet, cheminot et syndicaliste, Barbara Lefebvre, professeur d'histoire géographie, et dans les GG avec vous au 32-16, on évoque cette idée des couvre-feux. Pourquoi ? Parce qu'il y a des maires aujourd'hui qui ont pris la décision des couvre-feux. Alors après, ce qui varie, c'est le curseur de l'âge. Vous voyez, c'est couvre-feu à partir de 13 ans, c'est ce que fait Robert Ménard à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, où il y a une violence là, qui est très forte.
Formidable, Harry Durimel, le maire, formidable. À chaque fois que je l'écoute, je suis toujours d'accord avec lui.
Et puis, Christian Estrosi,
c'est un maire écolo, je ne sais pas ce maire écolo. Non, je crois qu'il n'est pas connecté avec Madame Toussaint et Madame Rousseau. Je crois.
Ah bah, il est surtout face à une situation où là aussi il faut faire preuve de pragmatisme.
Mais je ne sais pas si tu avais entendu la maire écologiste de la ville où ce jeune à motocross a foncé sur un policier municipal. C'était quelle ville déjà ?
Schiltigheim, je crois.
Voilà, Schiltigheim. Oui, la maire est écologiste. Je peux te dire qu'elle n'avait pas un discours laxiste. Elle était derrière la police municipale. Elle n'était pas sur l'idée que le jeune, finalement, n'avait pas percuté. Elle donnait raison à ses policiers. Je pense que les maires de terrain... ne sont pas les idéologues des salons parisiens.
Ah oui, c'est vous qui pensez que la gauche est laxiste, mais la gauche,
le maire
monsieur,
de Pointe-à-Pitre, la gauche n'est pas laxiste. Il a les yeux en face des
la, celle qui n'est pas laxiste, c'est celle qui est sur le terrain. Mais celle qui, Sandrine Rousseau, n'est pas une élue locale, elle est députée, elle n'a jamais géré une municipalité. On voit bien qu'il y a une différence.
Après, ce qui est intéressant, c'est l'application du couvre-feu. Parce que c'est bien beau de dire, je comprends l'idée du maire, pour rassurer la population, on fait le couvre-feu, on instaure à partir de 21h, 22h, 23h. Après, comment tu l'appliques ? Est-ce la police municipale qui patrouille, la police nationale ? Ah, comment tu interpelles,
tu comme Chine,
comment tu interpelles ces jeunes ? S'il y en a un, si tu vois un petit groupe de jeunes, effectivement, ah, oui. de 14 ans, tu vois qui est dehors, est-ce
que les policiers te disent,
est-ce que tu entames une course-poursuite avec eux pour les attraper ?
Non, les policiers te disent, on va perdre du temps parce qu'il faut retrouver leur adresse, il faut les raccompagner chez eux, etc. Et qu'on a autre chose à faire. Tu veux les mettre en garde à vue ?
Oui, non, pas en garde à vue, tu leur fais une petite salle dodo, une petite salle dortoir au commissariat.
Enfin, dans un on est dans
et tu ressortiras demain matin. Bon, ouais. Un cadre législatif. Bah, tu fais ça une fois deux, tu vas voir.
Non, mais tu sais,
c'est ça le problème. C'est
là, c'est un coup. C'est un coup politique un peu de ménard. Parce que tu sais, il y a eu un reportage où ils ont suivi, tu sais, des brigades de policiers municipaux et nationaux à Béziers. Et en fin de compte, ben, ils essaient de trouver des jeunes de moins de 13 ans, ils n'en avaient pas dans la rue. C'est un coup politique de ménard.
À mon avis, moi, 13 ans, je ne vois pas tellement intérêt. Moins de 16 ans, oui, mais ou 15 ans, mais 13 ans.
Mais moi, ce que je me dis, c'est. Moi, je peux entendre que tu aies besoin de dans certains endroits, mais moi, comme dit Barbara, il faut que ce soit partout ou nulle part. Hein, c'est comme ça, sinon, ça ne sert à rien et c'est stigmatiser certaines populations. Mais par contre, à un moment donné, il faut quand même remettre les parents devant la responsabilité. Hein.
Quoi, stigmatiser
ça ? C'est-à-dire que si tu dis que je fais ça que dans les quartiers, ça veut dire que les fils de pauvres ou les fils de gens modestes, ils sont forcément des délinquants et que les fils de riches, c'est pas eux qui sont les délinquants. Hein. Sauf
ça,
que moi, j'étais d'une classe moyenne. Je traînais avec des mecs de toutes les classes et je peux te garantir, on n'était pas des délinquants, mais on était juste à la limite et on faisait n'importe quoi et il n'y avait pas de questions.
Non, Bruno, tu étais un délinquant. Je me rappelle très bien.
Un délinquant, c'est un mec qui se fait arrêter.
Prenons le cas de Christian Estrosi. Quand il dit pour les moins de 13 ans, tu dis il faut pas stigmatiser. Et les moins de 13 ans, les quartiers dans lesquels ils traînent, on les connaît.
Non,
mais c'est pas de la stigmatisation.
Quand dans les émeutes de juillet, t'as des gamins de 12 ans dehors, tu stigmatises.
Et peu importe leur âge. Non, ça, c'est pas vrai. Alors, où tu nationalises la loi, c'est une loi, tu fais une loi nationale, c'est pas là. Et la même, et pour tout le monde, et t'es tranquille, et un gamin n'a rien à faire par rapport à son âge dehors, sans autorité parentale, d'accord, ou c'est pas la peine. Faire du cas par cas ou faire de trucs, ça c'est une connerie, mais monumentale.
Et de toute façon, ça ne
sera pas suivi. Alors que si c'est une loi nationale, ça sera suivi.
Alors on va en parler avec les endroits où ils ne sont pas dehors, c'est tout.
Avec Émilie, bonjour.
Le mec, il vient de je ne sais pas d'où.
Émilie, vous nous appelez de Saint-Jean-de-Mont en Vendée. Tiens, quel temps vers chez vous aujourd'hui ?
Alors malheureusement, je suis en déplacement, donc je ne suis pas sur place. On attend désespérément le bon lancement de saison. Je pense un peu comme partout.
Alors, chargé de développement, est-ce que vous êtes pour cette initiative du couvre-feu national et après à partir de quel âge alors dites-moi.
Alors malheureusement je suis assez pour. Je trouve encore dommage que encore une fois il faille instaurer ce genre de choses pour remettre sur la route et pallier au manquement de certains parents. Après je pense que d'un point de vue général je suis contre aussi cette stigmatisation parce que je pense que c'est aussi la valeur famille qui se perd. Quand on voit nos jeunes dans la rue, on peut se demander pourquoi ils sont mieux dans la rue qu'au sein des familles. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, à partir de 19h, chacun est sur ses écrans. On a tendance à plus avoir ce vivre ensemble, à plus faire d'activités. Les jeux de société, ça disparaît. Les activités, les sorties en famille, ça disparaît aussi. Alors pas partout, bien évidemment. Mais je pense que c'est un vrai problème de société, le vivre ensemble en famille. On l'a plus, l'individualisme, il est partout.
D'accord, mais c'est pas parce qu'on est dans l'individualisme que derrière ça provoque de la délinquance.
Non, bien sûr que non.
Ou un laisser-aller, voyez, de jeunes de 12, 13 ans qui sortent et qui zonent, comme on dit, jusqu'à minuit ou 1h du matin.
C'est
quoi.
Plutôt une perte de bornes, je pense plutôt de perte de. Enfin, moi je savais qu'il y avait des bornes à pas franchir. Ouais. Et toutes celles qui étaient à franchir, je les franchissais, mais celles qui étaient à pas franchir, je les franchissais pas parce que je savais où ça allait m'emmener en fait.
Ouais,
moi,
j'étais
en pension. J'étais en internat à 16 ans, je peux te garantir, ça n'a pas été la fête dans ma vie. Hein, donc voilà, mais on avait des bornes. Je comprends ce que dit Émilie, en fait, c'est que moi je sais pas comment, j'ai pas de gamin donc je peux pas parler comme ça. Moi j'ai les fils de mes amis, je vois comment ils sont devenus et je vois pas de délinquants autour de moi en fait. Les délinquants c'est plutôt les mecs de mon âge. Mais par contre, moi ce que je n'arrive pas à capter c'est à quel moment tu vois les familles peuvent laisser un gamin de 13 ans dehors sans que ça l'interpelle. Moi si j'avais été à 13 ans à de là de 19h dehors, je peux te garantir mec que ma mère ou mon beau-père faisait le tour de la ville, il m'a arraché par la tête pour que je rentre. Hein. C'était comme ça en fait parce qu'il y avait des bornes, des limites. Moi je capte pas comment les familles peuvent à un moment donné trouver ça normal. Mais comme j'entends tout à l'heure l'auditeur qui dit bah moi mon fils à 17h30 il est chez moi, mais il peut regarder le téléphone jusqu'à minuit. Enfin moi sans
mais tu te souviens,
moi Émilie, à 21h il n'y a plus d'écran, il n'y a plus rien.
Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a une scène qui était marquante l'année dernière au moment des émeutes. Vous vous souvenez de ce père qui était allé rechercher son fils
et
il l'avait mis dans le coffre de la voiture et il l'avait ramené à la maison. Vous vous souvenez de ça? Au moment où tout le monde était effaré de voir des gamins justement de 13, 14 ans, 15 ans qui allaient piller des magasins, mettre le feu à des magasins.
Et ce qui est étonnant, c'est qu'on est 13, 14 ans, 11 ans, à ce moment-là, les parents auraient dû se rebeller aussi.
Bah moi j'aurais pu montrer dans le coffre à place du gamin.
Bah bravo Esper. Parce qu'il
voyait, dans le coffre d'ailleurs,
il voyait son gosse en train de faire des conneries, en train de brûler des poubelles ou je sais pas de brûler quoi. Bah bravo Esper qui a eu le courage de venir chercher son fils au milieu d'une meute de débiles.
Mais c'est ce qu'on dit, les parents quand ils sont responsables, c'est la clé.
Oui, mais visiblement il était assez minoritaire puisque je rappelle des policiers nous ont fait part de témoignages de gamins de 11-12 ans qui étaient dans la rue à minuit. Je suis désolé, après moi je veux bien qu'ils jouaient pas au foot, parce que l'exemple d'Alain qui dit on a joué au foot avec les copains, on parle pas de ça.
Peut-être qu'ils ont perdu leur ballon aussi,
ils sont dehors pour faire des conneries.
Ils ont peut-être perdu leur ballon, tu sais pas, ils cherchaient partout.
Émilie, je vous remercie d'avoir été avec nous. Bonne journée, Émilie. Un de ces jours dans les GG, on va aller dans l'Indre voir Sébastien. Bonjour Sébastien.
Bonjour.
Vous nous appelez d'où dans l'Indre?
Châteauroux.
Oh là là.
Hommage à Louis Gerbier.
Hommage à Louis Gerbier, mais bon.
Vous connaissez Vierzon? Vous connaissez Vierzon?
Michel Denisot. Et à Michel Denisot. Ouais.
Et alors?
Vierzon.
Merci.
Il y a une vraie rivalité entre Châteauroux et Vierzon. Hein,
il y a une vraie rivalité entre Vierzon et toute la France, parce que vu comment on est traité.
Mon cher Sébastien, revenons à ce qui nous intéresse. Est-ce que vous êtes pour ce couvre-feu et à partir de quel âge alors?
En fait, c'est pas une question d'être pour ou contre. C'est finalement, ça concerne vraiment ceux qui. En quoi ça me dérange, moi, si mon gamin il est pas dehors à 13 ans, ça me concerne pas ce couvre-feu. Donc ceux que ça embête, c'est que finalement, ils savent que leur gamin n'est pas forcément au pieu à l'heure qu'il faudrait être.
C'est clair. Ça, c'est de la logique, vous avez
du bon sens.
Bah oui, de toute façon, la loi, quand elle devient plus répressive, elle
est-ce
dérange.
Est-ce que les parents dérangent
la LDH et les associations et les partis permissifs qui, eux, ne voient pas le problème alors que la majorité des gens se comportent normalement.
Mais est-ce que vous pensez que les parents sont démissionnaires, Sébastien?
Oui. J'ai travaillé 5 ans en centre éducatif renforcé. Alors on a une majorité de parents qui malheureusement sont complètement dépassés par l'effet des gamins, mais on en a d'autres aussi qui découvrent. On a encore l'exemple là pour la mort de Philippe où la mère elle passe à l'antenne en jurant bec les ongles que son gamin était avec elle en train de regarder la télé, et finalement trois jours après on apprend que c'était certainement le troisième larron, quoi.
Ouais, celui qui a été interpellé, celui qui avait été tabassé, donc il se présentait plutôt comme une victime, on s'aperçoit que celui-là en fait a sans doute participé au meurtre de Philippe. Ouais.
Exactement.
Et la mère le couvrait effectivement.
Voilà. Ah, mais tous les parents couvrent leur gamin.
Elle invente devant tout le monde que son gamin était avec elle, alors que finalement elle savait pertinemment qu'il n'était pas là, quoi. Donc si elle le couvre, c'est bien qu'elle le savait qu'il n'était pas clair le moment.
Donc elle n'est pas démissionnaire, elle est complice.
Et non seulement ça, mais en plus,
elle pourrait être poursuivie.
Le niveau, excusez-moi pour moi, mais le niveau intellectuel, elle ose faire ça en venant témoigner à la télé. C'est-à-dire qu'au moins, fais-toi discrète et ferme-la, que de venir en plus te pavaner à la télé pour dire. Ah non, mais il n'a rien fait.
Alors que l'enquête est en cours et que les enquêteurs ont forcément...
Il y a des gens, ils n'ont vraiment pas les yeux.
Ça renvoie au gamin, finalement, quoi. Ça renvoie quoi comme image? Il ne va pas être puissant, fiche pour répondre. Il peut faire n'importe quoi, puisque sa mère, elle le couvrira quoi qu'il arrive.
Bien sûr, mais vous dites, Sébastien, vous avez été éducateur spécialisé. Il y en a beaucoup des gosses de 11, 12, 13 ans qui traînent tard le soir dans la rue.
Nous, en centre éducatif, on a des mineurs à partir de 15 ans, donc ceux d'avant, on les a pas, puisqu'ils sont pas, au niveau pénal, ils sont pas, on peut pas les suivre, mais nous, on a des parents, on a deux types de parents, on a des parents qui sont complètement dépassés par les événements, qui ont peur de leurs gamins, parce que les gamins, ils ont pris la toute puissance, et voilà, et on en a d'autres qui c'est pas grave, et puis au final ils sont même plutôt contents parce que ça ramène un peu de sous à la fin du mois, ils se posent pas de questions quand ils voient le gamin arriver avec une paire de pompes à 1000 balles.
Mais vous imaginez que quand on leur demande de mettre des amendes dites piquantes, des piquantes, si 1000 balles ou 1500 balles pour les parents, ils te disent non mais ils peuvent pas, ils n'ont pas les moyens.
Moi je
vous le dis, Armand, Sébastien, pardon, je vous le dis, si on arrive à responsabiliser financièrement les parents des mineurs, ça ne va pas tout régler. Je suis bien conscient que ça ne réglera pas tout. Mais je vous assure que les mentalités vont bien changer. Ouais. Et pas avec des amendes à 2 balles, hein. Pas avec des amendes à 100 euros, 150 euros. Vous mettez des amendes à 1000 euros, 1500 euros pour les parents. Vous responsabilisez financièrement les parents par rapport à leurs gamins. Je vous donne ma parole d'honneur qu'à 20 à 30%, ça va déjà baisser les choses. C'est sûr et certain.
Le problème, c'est sûr et certain. Quand ils font des séjours de rupture sur 15 jours dans un lycée, c'est quoi l'intérêt de 15 jours? Voilà. Vous pensez vraiment qu'en 15 jours, le môme, il va se réveiller au bout de 15 jours, il va se dire,
bah,
finalement, ils ont raison, je vais
arrêter. Ou alors des amendes de...
Peut-être, Sébastien, vous avez raison. Alors, la question qui a été posée, faut-il un couvre-feu pour les moins de 15 ans partout en France? À mon avis, ça va être un oui. Ouais, oui. Ah oui, 81%. Massif.
Agressif.
81,9%. Allez, dans un instant, on s'en fout pas. Et ensuite, à partir de 10h, Kenji Girac, la thèse de l'accident, est-ce qu'elle est crédible? Et puis la SNCF, l'accord qui détourne la réforme des retraites. Voilà nos prochains sujets de discussion. On s'en fout pas dans 3 minutes.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Jean de Sanglé.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui notre trio. Barbara Lefebvre, professeur d'histoire géographie, Bruno Poncet-Cheminot et syndicaliste Mehdi Ghezard, patron de PME. Et c'est l'heure du on s'en fout, on s'en fout pas.
RMC, les grandes gueules.
On s'en fout.
Je peux pas te dire à quel point je m'en fous.
Pardonnez-moi, mais je m'en fous.
Ou on s'en fout pas.
Bonjour Anaïs Sainz.
Bonjour les GG, bonjour à tous. Pas de réouverture de l'autoroute A13 à l'entrée de Paris avant au moins le 1er mai, les GG. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Barbara?
Non, on s'en fout pas.
Bruno?
Non, on s'en fout pas.
Bruno?
Non, on s'en fout pas.
Mehdi?
Non, on s'en fout pas.
Réouverture seulement si toutes les conditions sont réunies, hein, indique la direction départementale des routes d'Île-de-France. Portion fermée depuis jeudi à cause d'une fissure profonde de 80 cm sur la chaussée entre Vaucresson et la capitale. Il faut rappeler quand même que cet axe qui relie la Normandie à la région parisienne est emprunté par des dizaines de milliers de travailleurs chaque jour. Sa fermeture provoque donc, en heure de pointe, des bouchons monstres, n'est-ce pas, Barbara?
Alors
Barbara, explique-nous.
Non mais, ouais, je les ai vécus ce matin. J'ai mis 1h20 pour arriver. Alors donc.
Pour faire combien de kilomètres?
Je sais plus. Je sais pas.
12.
Versailles, Paris,
quelque chose comme ça.
12, oui, oui. En fait, c'est quelque chose que je mets. Enfin. Quand ça roule bien, c'est 20 minutes. Quand ça roule mal, c'est 40 minutes, 45 minutes. Mais aussi, pourquoi je ne viens pas en transport en commun? Parce que je pourrais venir en transport en commun. Mais comme j'ai cours cet après-midi, et je dois retourner au collège, je ne suis pas sûre d'avoir le RERC. Parce que pendant les vacances, deux fois de suite, j'ai voulu aller à Paris avec le RERC. J'arrive, RERC supprimé. Pécresse. Le prochain, dans 1h40.
1h40?
Donc, oui. Donc, voilà, t'es obligé de prendre ta voiture. C'est insupportable. Donc, la fissure, en l'occurrence, elle est à la jonction du pont. Donc évidemment, moi, j'ai pas non plus envie qu'on finisse comme Baltimore, hein, parce que si ce pont-là, il cède, on finit au pire sur la chaussée en bas ou au mieux dans la Seine. Donc excusez-moi, mais
un
c'est
pont
très
qui
grave.
Rejoint le périphérique par
et le problème, c'est que les axes secondaires, ça passe par les petites villes autour, par exemple, pour moi, passer par Sèvres, etc. Et dans ces villes où jusque-là, nous avions deux voies de voitures,
oui,
il
n'y
a plus deux voies, il n'y en a plus qu'une, parce que l'autre, c'est pour les cyclistes. Donc je vous raconte même pas ce matin.
L'enfer.
J'ai mis 50 minutes rien que pour arriver au pont de Sèvres.
Alors,
donc, c'est l'horreur.
On peut rajouter aussi l'autre mauvais coup joué aux automobilistes. Ils peuvent prendre d'autres autoroutes, oui, mais ce sont les autoroutes les
payantes
plus chères de France.
Oui.
La 86, elle coûte, je crois, 12 euros pour 10 km, et la 14, c'est à peu près la
et
même chose.
Et ça ne leur vient pas à l'idée de suspendre le paiement juste pendant quelques jours, le temps que la 13 revienne? Non, il ne faudrait pas.
Faudrait sûr, au contraire, t'engranges.
Bah oui.
C'est ce que demande Carl Olive.
Et moi, je dis attention,
oui, mais
parce que même que le 1er mai, ce ne soit pas fini. Moi, j'ai entendu dire que ça pourrait être des très gros,
minimum.
Ça pourrait être des très gros travaux qui pourraient nous conduire jusqu'au mois de juin.
Mais là, pourquoi ces travaux? Parce que comme on entretient mal nos routes, forcément, quand ça pète, c'est plus grave.
Non, on vient te dire que c'est des glissements de terrain parce qu'il a trop plu. Non, non, c'est pas des glissements de terrain, c'est parce que c'est pas bien entretenu.
Bah oui. Voilà.
On a tout dit, les GG, là-dessus? Allez, ouais. On enchaîne. Ça y est, la situation semble se débloquer pour le jockey anglais qui a demandé à Emmanuel Macron son titre de séjour. Il a rendez-vous demain à la préfecture de l'Oise, qui l'a contacté hier. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Mehdi?
Ben non, on s'en fout pas, l'immigration aujourd'hui.
Barbara.
Non, on s'en fout pas.
Bruno.
Non, on s'en fout pas.
Ben oui, situation administrative médiatisée par le jockey, lui-même vainqueur dimanche à Auteuil du Grand Prix du président de la République, justement. Et depuis son cheval, à l'arrivée, un journaliste lui avait tendu un micro et au lieu de se réjouir de sa victoire, ce jockey anglais avait poussé un coup de gueule en interpellant directement le chef de l'État. On le réécoute pour le plaisir.
J'ai une question pour Monsieur le Président. J'ai gagné votre course maintenant et j'ai toujours pas de titre de ce jour alors que ça fait 8 ans que je travaille en France. J'ai payé plus de 50 000 d'impôts par an et j'arrive même pas à avoir un titre de ce jour.
Voilà.
Et on a eu, on peut préciser qu'on l'a eu hier en direct sur BFM TV. Alors il a des enfants nés en France, donc eux ils sont français. Lui dit, non seulement je n'arrive pas à avoir le titre de séjour, mais je n'ai même pas de réponse de la préfecture. Parce qu'en fait, il devrait l'avoir automatiquement, puisqu'il est là avant le Brexit maintenant. Depuis qu'il y a le Brexit, effectivement, c'est plus compliqué d'obtenir ce titre. Mais donc, avant le Brexit, l'Angleterre était dans l'Union Européenne, et donc c'est des choses quasiment automatiques. Donc il y a un bug de la part de la préfecture, mais il n'arrive pas à régler ce bug, puisque la préfecture est là. Par miracle, depuis ce week-end et depuis son passage sur BFM TV, la préfecture de l'Oise l'a appelé. C'est magnifique, la France de l'égalité.
Oui, et vous aviez aussi ce nageur français qui est d'origine russe, qui est là depuis qu'il a 4 ans. Et il n'est pas suffisamment intégré, alors que le gars, il est intégré professionnellement. Bah oui, il est nageur professionnel, donc oui, il ne travaille pas, il a 24 ans, mais il est entretenu par sa famille, son père est chef d'entreprise, c'est des gens parfaitement assimilés. Et bah lui, on ne lui donne pas la nationalité française. Quand on la distribue au titre du regroupement familial, à qui veux-tu, qui ne parle même pas français. Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Faut mettre. Et là, ce qui est fou, c'est qu'il obtient gain de cause parce qu'il médiatise, il a eu raison de faire ça.
Bah, moi, ce que je trouve bien, c'est que t'es jockey, tu cours pour les plus grands milliardaires du monde et principalement des milliardaires qui viennent d'autres pays que vous aimez pas toujours. Et par contre, là, il n'y a pas de lézard. Tu peux être naturalisé. Par contre, tu fais de la plonge dans un restaurant depuis 20 piges, tu gagnes 1400 balles par mois. Il faut surtout pas qu'on te naturalise, il faut surtout que tu rentres chez toi le plus rapidement possible parce qu'en fin de compte, t'es une nuisance pour la France. Moi, je trouve ça. Alors, moi, je veux dire, c'est bien, tant mieux pour lui, hein, l'anglais, là. Moi, il me fait un peu rigoler. Mais en attendant, je pense qu'il y en a d'autres aussi à naturaliser avant. Ceux qui font notre quotidien, qui balayent nos rues, qui nous servent et qui font la plonge partout, je pense que ça serait bien aussi qu'ils soient naturalisés parce qu'ils travaillent en France et qu'ils créent de la richesse pour beaucoup de Français. Peut-être plus que lui, que sa richesse à lui, il la crée pas trop pour les Français.
Je signale ceux-là, ils sont appuyés puisqu'il y a le patronat et notamment l'UMI qui demande justement à ce que pour les métiers en tension, il y a des facilités d'obtention de papiers, de régularisation.
C'est pas ce qu'on entend aussi, Alain. Tu le vois bien en ce moment. C'est le contraire. Tu vois bien. Entre ceux qui réclament des trucs qu'ils savent très bien qu'ils n'auront pas, c'est comme quand Lumit te réclame qu'il faudrait mettre la mention fait à la maison et qu'ils l'ont pas en fait. Tu vois. Donc ça fait un peu rigoler.
Mehdi.
Non mais écoutez, là, il a médiatisé, il a fait son coup de com, et il a réussi. Bon, c'était pas un clandestin non plus. Hein. Le mec, il a quand même la nationalité anglaise, donc il avait pas grand chose à. Il a pas à avoir peur. Mais en effet,
c'est Jeanne d'Arc qui se retourne dans sa tombe,
moi je vous dis.
Mais
surtout qu'il peut pas être assuré.
Ce mec a travaillé, ça fait 8 ans qu'il bosse, il paye 50 000 euros d'impôts par an, ses enfants sont nés en France, il n'a pas de raison, il respecte les lois de la République, il n'a pas de raison d'être bloqué comme ça par rapport à la préfecture. Tant mieux que ce soit réglé pour lui.
On enchaîne.
Calcul.
J'ai dit, j'espère en tout cas qu'il traite bien son cheval, parce que sinon, moi, je le naturalise.
Bah, il finira en ravioli. Hein,
je sais qu'il n'est pas propriétaire, mais ça n'empêche
que. Il manque plusieurs chevaux.
Oui, je sais, mais j'espère qu'il les traite bien. Enfin, bon, j'ai du mal avec les chevaux de course, donc évidemment.
C'est quand même étonnant qu'un sujet sur les canassons te vient de 3 jours, parce qu'il y a Naïsène qui dirige leur
nouveau. Vu les conditions de vie et d'entraînement de ces pauvres chevaux, c'est une horreur. Enfin, bon, bref. C'est des milliards d'euros.
Calcul, écriture, lecture. Un adulte sur 10 des GG est en difficulté dans ces 3 apprentissages fondamentaux. Ça fait 10% des Français. Est-ce qu'on s'en fout ou pas?
Ah bah non, on s'en fout
Barbara,
pas.
Barbara, Bruno.
Ah non, on s'en fout pas du tout.
Mehdi.
Non, on s'en fout pas.
En France, selon l'INSEE, 10% des 18 à 64 ans ont du mal à déchiffrer des mots, à écrire ou à comprendre un texte simple. 12% peinent en calcul aussi. Cela représente 4 millions de personnes en France et des répercussions de fait dans la vie quotidienne de ces personnes, dans l'usage d'Internet par exemple et dans les démarches administratives. Barbara, pourquoi on s'en fout pas?
Ah ben non, mais on s'en fout pas parce que moi je vous donne rendez-vous dans, 15 ans. Là, c'est plus 1 Français sur 10. Ce sera 3 Français sur 10 qui auront des problèmes avec la lecture, l'écriture et le calcul simple. Parce que moi, je peux vous le dire, avec les gamins qu'on a, qui ont de plus en plus de difficultés de lecture, qui ne lisent plus de livres, qui sont toute la journée sur les écrans et qu'on autorise à écrire en javanais et dont on ne corrige pas l'orthographe parce que t'es prof d'histoire géo, c'est pas ton boulot de corriger l'orthographe. Moi, je vous dis, 1 sur 10, réjouissez-vous. Dans quelques années, c'est 3 sur 10, puis 4 sur 10, si on ne remet pas sérieusement l'école de la République au milieu du village.
Non, mais moi, ce que je trouve, le chiffre me paraît quand même hyper faible, parce que moi, perso, je reçois des mails de personnes qui sont cadres ou cadres supérieurs oui, dans ma boîte. Je vois des fautes d'orthographe, ça me casse les yeux, en fait. Hein. Et moi, j'étais éduqué à l'orthographe. Je peux te garantir, quand j'avais en dessous de 18 à une dictée, je me faisais flamber chez moi. Et là, je vois des trucs par des mecs qui ont 50 piges. Je me dis, alors j'imagine leur gamin, j'imagine en dessous. Et je me dis, copain, enfin, je comprends pas trop, moi, sur l'orthographe et le calcul. Moi, le calcul mental autour de moi, j'en pleure. Hein. Je vois des gens, 5 x 12, attends, je regarde, faut que je fasse. T'es sérieux, enfin, moi, je suis hyper surpris de ça, mais moi, je trouve que 10%, c'est pas beaucoup, parce qu'aujourd'hui, quand tu regardes autour de toi, et moi-même, mes potes, déjà, leurs gamins lisent pas, mes potes lisent pas beaucoup, j'imagine bien qu'ils ont un problème avec l'écrit. Moi, j'ai des copains, j'ai mon meilleur pote quand il fait des messages sur Tinder ou autre chose, il m'appelle pour savoir l'orthographe avant, alors qu'il se trompe rarement parce qu'il a été élevé comme moi. Mais il me demande toujours, j'ai pas fait une faute ou pas.
Alors, des messages sur Tinder, c'est-à-dire sur les applications de rencontres.
Voilà, de rencontres.
Je sais pas si là c'est très grave.
Bah si, c'est grave, attends.
Je crois que tu marques des points. Je crois que tu marques des points. J'ai des copains qui m'ont dit si tu sais écrire en français sur Tinder.
J'imagine que tu dragues Barbara, tu fais des fautes, tu te fais flamber, mec. T'es même pas essayé.
Bon là, moi, je suis même pas. Je te regarde si tu fais des fautes d'orthographe.
C'est pareil.
Voilà.
Oh, non, mais ça va pas.
Red flag.
Même. Ah, alors attendez deux secondes. Barbara, même pas. Je te regarde. Et là, ensuite, red flag.
Red flag.
C'est quoi red flag?
Ah bah pardon, je.
C'est drapeau rouge.
Bah, drapeau rouge, c'est effectivement quelqu'un qui fait des fautes. C'est.
Oui, t'es le roi du pétrole.
Quelqu'un qui fait des fautes et qui a pas d'humour et qui a pas un peu d'autodérision.
Tu marques des points.
Ah oui, c'est pour ça, mon pote, il est malin.
Pardon, c'est un indicateur.
Ah oui, c'est un indicateur.
Mon pote, il a compris le bise.
Ah mais il y en a qui vont te dire c'est de la discrimination.
Oui, bah tant pis.
C'est pour ça qu'on corrige mes dates.
Donc on a petit à petit une génération qui monte, une génération qui ne sera pas écrire, voilà. Qui ne saura pas lire correctement et qui ne saura pas non plus faire du calcul mental, quoi, en fait. Ça va être pratique.
Et qui sortira dans la rue.
Ah bah non, surtout avec les profs de maths qui vont avoir vu le niveau du CAPES.
Oui,
plus.
C'est ça.
Enfin bref.
Mehdi.
Tout s'améliore.
Non, mais le problème de l'éducation nationale et le manque de personnel dans l'éducation nationale, où t'as des classes où ils sont 35-40, et ben ça produit ça, tout simplement. Les enfants n'ont plus justement autant de. Ils n'arrivent plus justement à être aussi concentrés qu'avant et les professeurs n'ont pas autant de temps à consacrer à chaque élève et c'est de la surpopulation dans les classes et ça crée ça.
Il y a aussi le la baisse de la lecture.
Il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de suivi des enfants.
C'est la baisse de la lecture.
Non, mais il n'y a pas de suivi des enfants.
Oui, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que maintenant, il y a des générations qui lisent moins.
Le bac, quand toi et moi, on l'a eu il y a 15 ans de ça ou 20 ans de ça, c'est le même niveau qu'aujourd'hui?
20 ans, t'es gentil.
Non, mais
moi,
tu sais à quoi c'est dû? Moi, je vais vous expliquer juste une chose.
Non, mais
je peux t'expliquer en une minute ce que c'est. C'est la transformation des programmes scolaires où on a décidé, depuis plus de 10 ans maintenant, il n'y a plus de leçons de grammaire et d'orthographe spécifiques. Tu es prof de français, tu dois faire la leçon d'orthographe et de grammaire en même temps que tu étudies un texte littéraire. D'accord? Donc, c'est-à-dire, tu étudies un poème et tu dis « Ah, vous avez vu là? De l'imparfait. Tiens, je vais vous parler un peu de l'imparfait. Alors tiens, l'imparfait du verbe chanter. » Puis après, alors on revient à l'analyse du texte. Oh, vous avez vu une préposition. Oh, je vous explique en gros ce que c'est une préposition. Je suis désolée. La grammaire et l'orthographe, ça doit être des cours spécifiques.
Oui, on a quand vous... ça, nous.
Eh ben maintenant,
puis
tu
imagines le problème.
Si tu es prof de français, et que tu fais un cours de grammaire ou d'orthographe spécifique à part, t'as l'inspection qui vient, tu te fais casser parce que l'inspecteur va te dire non, vous devez intégrer à l'étude littéraire.
Barbara, le problème il est là.
Ça fait 10 ans que les profs de français le hurlent, le crient. On leur dit non, c'est vous comprenez rien. Il y a des grands pédagogistes dans les universités qui ont décidé que c'était comme ça.
Quand tu étudieras les chansons d'Ayana Kamoura, c'est sûr que ça n'a pas donné une chance à l'orthographe ni à la grammaire.
Ça, c'est fini.
Il y a aussi.
Donc, qui est-ce qui dissocie ça? C'est papa, maman à la maison. Moi, je fais. Allez, ma fille, elle n'a pas de problème de lecture, de grammaire et d'orthographe parce qu'il s'avère que c'est une très bonne lectrice. Donc voilà. Mais au début, au tout début, CE1, tout ça, je faisais des cours de grammaire à ma fille pour être bien sûr qu'elle avait tout bien compris parce qu'il n'y en avait pas en classe.
C'est pour ça qu'à l'école, ceux qui réussissent le mieux, ce sont les enfants de prof.
Bah oui, parce que nous, on sait ce qu'il faut combler.
Les correcteurs, justement, automatiques sur les téléphones et sur les ordinateurs aussi.
Sauf que Gerbier.
Ça a engendré beaucoup de.
Oui, c'est Gerbier, c'est un cas désespéré, Louis Gerbier. En fait.
Barbara, donne rendez-vous dans 10 ans, c'est ça, hein, pour voir si ça
s'améliore
ou pas.
Même jour, même heure, même
pomme. Allez, dans un instant, Kenji Girac, la thèse de l'accident.
Ah non.
Parce que la thèse de l'accident est crédible. On en parle avec vous au 32-16.
RMC, jusqu'à midi. Les grandes gueules.